Une autre église de Montréal aux apparences sectaires, violence, abus, intimidation, bref, des méthodes douteuses encore une fois, d'ex-fidèles se confient à Paul Arcan.
Il y a des gens qui ont attiré notre attention sur l'église biblique baptiste métropolitaine sud. C'est situé à Saint-Hubert, donc sur la rive sud de Montréal, dirigée depuis 1982 par le pasteur Mario Monette. Pourquoi on a attiré notre attention? Je vous dirais d'abord concernant des allégations de violence, des allégations aussi de harcèlement psychologique et également des pratiques financières qui soulèvent des questions. Et vous allez comprendre pourquoi on vous en parle ce matin. Je vous présente nos deux invités. D'abord, Pierre Gamelin, qui est avec nous, qui a passé 30 ans de sa vie et plus là dans cette église qu'il qualifie lui-même de secte. Monsieur Gamelin, bonjour.
Bonjour.
Et Paul-Émile Monette, qui est le fils du pasteur en question, Mario Monette, et qui a quitté l'église, la secte, depuis déjà un certain temps. Monsieur Monette, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gamelin, je commence avec vous. Parlez-moi un peu de cette église. Vous avez été là pendant 30 ans.
Oui.
Vous êtes entré là comment et pourquoi vous êtes resté aussi longtemps dans cette église?
En fait, ma mère était là au tout début avec ma tante. Et puis, étant un peu croyant dans ce temps-là, j'ai été dans cette église-là, pensant à être dans la bonne église, etc. De fil en aiguille, j'ai resté là ces années-là, mais je me suis aperçu que il y avait beaucoup d'intimidation dans le sens par la prédication. Puis le but, en fait, c'était de dire si tu sors de l'église, c'est juste, tu fais juste démontrer que t'as pas été sauvé, tu fais juste démontrer que t'es un hypocrite, et puis que t'as jamais été des nôtres, puis que tu t'en vas en enfer. Quand tu crois un peu à la Bible, puis aux choses spirituelles, tu dis non, moi je veux pas aller en enfer, c'est certain. Fait que t'endosses, puis tu encaisses.
Quand vous dites j'encaisse, là, ouais. Donnez-moi des exemples de propos tenus par le pasteur, de prédication qui, à vos yeux, sont une forme d'intimidation.
En fait, c'est très dur de mettre 30 ans, de faire une conclusion sur 30 ans sur des items particuliers. J'étais pas il savait que j'étais pas le yes man du pasteur Monette, parce qu'au début j'étais pas marié avec sa fille parce que c'est devenu mon beau-père. Il savait que j'étais pas le yes man. Fait que souvent que je passais dans le bureau à cause de ces choses-là parce que j'étais pas nécessairement en accord avec tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pratiquait, ou mais t'as pas le choix sinon il va t'humilier devant le public, il va t'humilier devant l'assemblée, humilier quand j'ai été noté à plusieurs reprises. Être noté, ça veut dire que tu viens à l'église, personne te parle. Puis il dit à tout le monde, vous parlez pas à frère Gamelin parce que il a été noté à cause de telle et telle chose dans sa vie. Puis si ça change pas, ben c'est l'expulsion. Ma tante a été expulsée, celle qui était là au tout début, a été expulsée. J'en ai connu plusieurs qui ont été expulsés parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Se repentir, ça veut dire que tu fais les choses de la manière que lui, il dit. Sinon, fait que là, tu es obligé de faire comme lui, il pense, comme lui, il dit. Sinon, vous êtes expulsé tout simplement. Puis quand vous êtes expulsé, ben là, vous êtes complètement seul. Vous pouvez parler à vos parents, vous pouvez parler à ceux qui sont dans l'assemblée, dans l'église, parce que c'est un cercle qui est extrêmement fermé. Fait que vous êtes complètement seul rendu là.
Mais vous, qu'est-ce qui a fait qu'un matin, vous avez dit, là, c'est assez, je quitte? Parce que, je rappelle aux gens, vous l'avez mentionné, là,
oui.
Vous êtes marié avec la fille du pasteur.
Et voilà. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à plusieurs années à l'avant, on avait construit une maison, etc., puis il était pas d'accord avec ça parce qu'on l'avait pas consulté. Oubliez pas une chose, quand on a des décisions à prendre, il dit tout le temps, même dans la prédication, il se cache pas, faut consulter Dieu. Consulter Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller dans son bureau puis lui demander à lui.
La permission de vous construire une maison.
Exactement. La permission, le montant de la maison, quelle sorte de maison même, etc. Que ce soit une maison, que ce soit un auto, que ce soit n'importe quel style de dépense, n'importe quelle chose qu'on veut faire dans notre vie, faut consulter Dieu. Puis si on consulte pas Dieu, ben on est charnel, puis on fait pas les choses selon le Seigneur. Puis en arrière de ça, consulter Dieu, ça veut pas dire prier pour attendre que le Seigneur nous parle. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire va dans son bureau puis demande la permission. La vraie chose là, c'est ça.
Okay.
Si tu le fais pas, tu vas te le faire dire par la prédication. Okay. Puis c'est bien juste s'il mentionne pas ton nom, mais tout le monde le sait. C'est de toi qui parle.
Et là, quel a été l'élément déclencheur pour dire, là, moi, je sac mon camp.
OK. Moi, j'ai eu une business, j'étais 30 ans à mon compte. Le dernier business que j'ai acheté, parce que j'ai acheté plusieurs commerces, j'ai eu des fraudes dans ma business par de mes employés, etc. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. Lui, il voulait absolument que je repaye ma faillite. J'ai été incorporé, je n'étais pas enregistré. Il voulait absolument que je repaye cette faillite-là à tout le monde. J'ai dit non, on ira pas là. J'ai fait une grosse dépression. J'ai perdu 100 livres. Il n'y a rien qui a été dans cette année-là. Mais il voulait absolument que je repaye cette faillite-là, qui était impossible, qui était au-delà d'un million. C'était impossible pour moi de repayer ça. Il voulait que je vende même... Je parlais avec, là, il y avait même question de vendre tes avoirs. Ça dit, tu vends tes meubles, tu vends tes choses. Puis tu t'en vas en genre de HLM, puis va pas t'acheter un hot dog au dépanneur ou au restaurant. Là, t'as pas les moyens, tu mets tout sur... Écoutez, j'avais 48 ans à l'époque, 4 enfants. Non. J'ai dit, allez pas là dans cette discussion-là. Puis quand c'était le temps de la communion, parce qu'une fois par année, il y a la communion, puis il faut que tu te mettes en règle avec le Seigneur, il voulait pas que je la prenne. Puis devant tout le monde, il a dit, pourquoi que tu n'as pas pris la communion avec tout le monde dans l'Assemblée? Je lui ai dit, c'est vous qui m'avez dit de pas la prendre. Puis ça, j'avais dit ça la veille. On était dans son bureau encore la veille, moi et mon épouse. Mon épouse était témoin. Puis c'est lui qui m'avait dit, tu prends pas la communion, mais j'avais dit, c'est bien correct. Mais je savais que l'étape d'après, c'est de te faire discipliner d'église, se faire mettre hors de l'église. Je me suis dit, non, tu m'as assez humilié, là je m'en vais d'ici. Puis j'avais dit à ma femme, gars, c'est de valeur, là, mais je m'en vais d'ici.
Okay. Puis votre femme, est-ce qu'elle est toujours membre de l'église?
Non, pas du tout.
Elle a quitté.
Elle est restée là pas loin d'un an, mais elle a été à l'église très sporadiquement parce qu'elle s'est fait opérer pour un pied. Elle avait des mal de dos, elle n'a pas été très, très souvent. Quand on sort de l'église, c'est là qu'on s'aperçoit de l'ampleur de ce qui se passe là. Pourquoi? Parce que on se rend compte que le monsieur il contrôle l'information énormément. Puis vu qu'on n'a pas de contact avec les gens de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Puis mon épouse, c'est certain qu'après ça, elle s'est poignée avec son père à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'elle est sortie de là. Quand on est sorti de là, c'est là qu'on a rencontré ses frères et ses sœurs qu'on n'avait plus de communion depuis une dizaine d'années, si c'est pas plus. C'est là qu'on a commencé à voir l'horreur.
OK, on va revenir, M. Oui. Gamelin, là, sur les détails, notamment sur l'obsession de l'argent, les montants qui sont exigés par le pasteur en question. Paul-Émile Monnette, vous êtes donc le fils du pasteur Monnette. 8 enfants dans la famille.
Oui.
Vous avez quitté également. Ça fait combien de temps que vous avez quitté?
Je venais d'avoir tout juste 17 ans quand je suis parti.
Et vos frères, sœurs ont tous quitté?
Oui, tous à des moments différents, là, mais tout au long, oui. Il n'y a plus aucun de mes frères ou sœurs qui sont encore là.
OK. Pour quelle raison vous avez quitté?
Moi, c'est très simple. C'est vers mes 15 ans, je te dirais, que j'ai voulu... que j'ai entamé les processus parce que, dans le fond, ça a commencé la première fois, c'est que mon père m'a mis sur le bord de la porte avec un sac de vidange pour me dire « Tu t'en vas, c'est là que tu t'en vas. » Donc, c'est sûr qu'à 15 ans, tu y repenses à deux fois. Fait que je me resserrais dans le rang pour suivre ce qu'il fallait faire. L'élément déclencheur, je pourrais vous dire, c'est quand mes sœurs sont revenues de vacances. Donc, c'était passé encore quelques petits événements-là avec un de mes frères qui avait été quand même assez corrigé solidement là, dans un chalet. Il n'y a pas d'isolation, donc on...
OK, mais là, on va se parler pour que les gens comprennent. Là. Votre père, là, il vous frappait.
Oui.
Frappait vos frères.
Le frère et sœur, mon père et ma mère, les deux, participaient très bien.
OK, votre père, votre mère... à tour de rôle, dans des occasions précises, utilisait ce qu'on appelle le châtiment corporel contre les enfants.
Oui.
Puis battre, ça voulait dire quoi pour vous? Comment ça se passait?
Ben regardez, moi j'ai un petit épisode là, de ma vie personnelle que je peux vous expliquer. Là, que moi-même, personnellement, j'ai confronté mes parents à la fin. Il y a eu un épisode où est-ce que on passait chacun, les enfants, notre tour pour se faire corriger justement. Parce que là, ma mère voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé pour un événement. Je ne dirais pas la raison pourquoi. Mais c'est qu'on passait chacun notre tour dans une pièce qu'on se faisait corriger 10 coups chacun.
10 coups de quoi?
D'un coup de bâton. C'est un bâton que généralement les personnes peuvent trouver là, chez Renaud Dépôt, aux affaires même. Là. C'est comme un gros bâton de bois franc là, qu'on peut brasser la peinture là, d'un 5 gallons. Ça, c'était l'outil principal, mais ça pouvait être autre chose aussi. Donc, on se faisait corriger à tour de rôle pour savoir c'est qui avait fait la chose en question. Donc, on passe plusieurs tours chacun, on est 8. Donc, on a passé, je vous dirais, au moins 4-5 tours chaque, à 10 coups chacun. Et entre deux passages, il y a un de mes frères qui vient me voir et il me dit « Paul, dis que c'est toi, ça va arrêter ». Moi, je pense que j'avais 5-6 ans à cet âge-là, là, donc j'étais pas bien, bien vieux. Là. Et moi, naïvement, j'ai accepté. Au prochain tour, j'ai acquiescé que c'était moi, dans le fond, qui avait fait ça, sans que ce soit moi, dans le fond. Donc là, ma mère a décidé que tu vas manger tous les coups que les autres ont mangés. Puis, tu sais, c'est un événement qui était quand même assez mémoratif pour tout le monde. Je pense qu'on avait arrêté de compter les coups à 80.
Vous aviez 5 ans, 6 ans?
J'étais pas vieux, là. J'étais assez petit pour qu'il puisse me pencher sur son genou, mettre sa jambe par-dessus les miennes pour m'empêcher de bouger.
Puis de vous frapper.
Puis de me frapper sans arrêt. Jusqu'à concurrence. On a arrêté de calculer à peu près à 80 coups. Puis comme je vous disais, pour répondre à votre question, par la suite, moi, j'ai été confronté, mes parents, avec les écrits. Dans ce qui était écrit dans sa Bible, carrément. Puis ça parlait même pas de son enfant, ça parle d'un esclave. Qu'un esclave ne doit pas être frappé plus de 40 coups, moins un coup. Sinon, c'est carrément le battre. C'est la Bible qui le dit. Donc, moi, avec ça, j'ai été confronté, ma mère et mon père, séparément. Il y a juste ma mère qui a eu un petit peu d'émotion par rapport à ça, parce qu'elle a comme réalisé ce qui s'était passé. Mais mon père, aucune réaction, très froid. Puis même pas d'excuses ou pas de remords. C'était tout ce que tu méritais, puis c'est tout.
Ça veut dire que vous avez aucun contact avec lui depuis que vous avez quitté?
Ça fait 13 ans que je parle pas à mes parents, aucunement.
Vos frères et sœurs, est-ce que vous avez des contacts avec eux?
Oui, chacun de mes frères et sœurs, j'ai des contacts.
Et eux parlent pas plus à vos parents?
Non plus.
Est-ce que à l'époque, quelqu'un a pensé faire une plainte à la DPJ, faire un signalement? Ça veut dire... vous parliez tantôt d'un cas où vous entendiez quoi, les cris de votre frère qui se faisait battre, là, puis...
Ben ça, c'est une portion que moi, j'étais pas là, mais qu'on m'a conté.
Okay.
Mais que quand c'est rendu que tu le sais, que tu l'entends à l'extérieur crier du chalet, là, puis tu le sais que le monde t'entende, c'est un petit peu humiliant aussi. Je peux comprendre, mais tu sais, cette portion-là, j'étais pas là, mais c'est... Ils ont pas de... ils se foutent un petit peu, je vous dirais, de ce qu'ils peuvent ressembler ou donner comme image à l'extérieur. C'est vraiment une manière de penser fermée, là.
OK, mais il n'y a pas eu de signalement à la DPJ?
Non,
il n'y a jamais eu...
Il y en a eu déjà des signalements à la DPJ. C'est juste que à certains moments, mon frère ou ma sœur, des fois, quand ils essayaient, c'est que nous, en étant petits, on voulait pas partir de notre famille, puis on voulait pas non plus quitter notre famille. Fait que, tu sais, d'aller faire une plainte à la DPJ, c'était... T'acceptes de partir puis de t'en aller dans un autre foyer qui n'est pas les tiens. C'est sûr, c'était plus compliqué, mais il y en a parmi mes frères et sœurs qui ont eu recours à la DPJ. Mon petit frère, il a déjà fait un signalement sans être suivi. Un autre de mes sœurs, elle a été pris. Fait que, tu sais, c'est vraiment des situations vraiment différentes à chacun. Mais oui, il y a eu des signalements à la DPJ parce que...
Est-ce que c'était occasionnel ou c'était, je vais prendre l'image, là, un mode de vie que de battre les enfants?
C'est un mode de vie, puis non seulement c'est un mode de vie, c'est qu'il encourage les autres à le faire. Fait que moi, tu sais, je vous donnais une idée.
Les autres membres de l'Église?
Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça a l'air stupide, mais les enfants du pasteur, je peux vous le garantir, il fallait que ça donne l'exemple. Fait que, tu sais, juste être assis devant, si je faisais que je gigotais un peu trop ou me revirais ou essayer de parler à quelqu'un, ça me valait une bonne correction parce que c'est de même, ça marchait. Dans le service, là, ma mère, elle se penchait. À te les comptes. À te lever un doigt. T'es rendu à deux doigts, trois doigts. Chaque doigt, ça vaut 10 coups. Fait que c'était pas quelques fois, c'était tout le temps. Si tu te levais le matin, tu sais que tu vas en manger une. Tu sais pas pourquoi encore, mais c'est sûr que tu vas en manger.
Puis vous dites qu'il encourageait les fidèles à...
Oui,
à...
oui. Puis s'il vient à savoir que t'es pas assez vigoureux ou que t'es trop laissé aller, comme mon beau-frère l'a dit, il va te placer devant tout le monde. Puis il va te faire passer pour quelqu'un qui est mou, tu sais, qui n'est pas selon les écrits, dans le fond. C'est de la manipulation psychologique très forte.
Nos invités ce matin, Paul-Émile Monette, donc, que vous venez d'entendre, qui est le fils du pasteur Mario Monette et Pierre Gamelin, qui a fait partie de cette église baptiste pendant plus de 30 ans, qui en est sorti il y a 2 ans seulement, et qui est marié avec l'une des filles du pasteur. Monsieur Gamelin, est-ce que vous saviez qu'il y avait des sévices comme ça dans cette famille-là?
Oui, en fait, je le savais. Regardez, ce que j'ai su il y a plusieurs années, que je sais qu'un de ses frères, il avait peut-être quoi, 10 ans, 12 ans, à un moment donné, j'ai su qu'il couchait dans le garage. Dans le garage, sur le béton, là, à terre, là, pendant 3 mois. Il mangeait là, il dormait là, dans le garage. Parce qu'il avait fait des choses qui étaient inacceptables selon le père et la mère. Puis ils ont dit, tu veux agir comme un animal, on va te traiter comme un animal. L'enfant avait quoi, 10, 12 ans dans ce temps-là? C'était complètement ridicule. Mais est-ce qu'on peut parler de ces choses-là quand on est dans cette secte-là? C'est impossible. C'est complètement impossible.
Parce que là, les gens qui vous écoutent vont dire, écoute, on est presque pas pris le téléphone pour faire un signalement à DPJ si des enfants sont traités comme ça.
Comme je vous dis, la peur d'être expulsé d'église est tellement forte que c'est même pas quelque chose que tu penses. de dire, moi, je vais faire un signalement ou je vais appeler quelqu'un. C'est trop fort. C'est juste trop fort. Puis il faut que tu fasses l'unité avec l'Église et encore bien plus avec ton pasteur. Bien plus. Fait qu'il peut faire n'importe quoi aujourd'hui. Là, même les fidèles qui sont là encore en ce moment, il peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y aura aucun problème. Okay. Sauf qu'à un moment donné, j'avais écouté Dr. Mayou dire quand on est dans une secte, on perd le sens critique dans une secte. Écoutez, j'ai écouté le Dr. Mayou tout le temps, comme je vous ai écouté tout le temps, tous les matins. J'étais sur la route pendant 25 ans. Je me suis dit, ben voyons donc, moi je vais dans une église, mais j'ai mon sens critique est là. Quand tu sors, c'est là que tu t'aperçois que tu l'as pas eu, ton sens critique. Malheureusement, quand tu sors, c'est là que tu te rends compte de tout ce qui s'est passé là. Tu te dis, ben oui.
On comprend là, qu'on a affaire, officiellement c'est une église, là, mais ouais. On a affaire à un chef d'une secte. Là.
Et voilà.
Parce que vous n'avez pas le droit de parler à ceux qui sont pas membres de l'église.
Non.
Une fois que vous n'êtes plus dans l'église, c'est fini, vous êtes barré.
Ah non, c'est fini.
Votre mère, elle vous parle plus, là.
Je veux aller. Moi, j'avais été à ma mère, j'ai dit, mais je vais aller voir les journalistes. Je peux pas laisser ce que je sens en ce moment en dedans de moi et puis me coucher tranquille. C'est pas vrai, je peux pas faire ça. Fait que, va dans une autre église si tu veux. Va à Sherbrooke, va à une autre place à Saint-Hubert. Va ailleurs. C'est correct, c'est pas ça le point. Je veux pas que tu sortes d'une église, là. Faut que tu sortes de cette place-là. Elle m'a répondu, si mon pasteur, il est allé en prison, je vais aller avec lui. Puis elle veut plus rien en faire avec moi.
Dans
faut
le fond,
que ça
arrête,
ces choses-là.
Vous venez sur la place publique en disant, voici en gros ce qui se passe.
Ah, oui.
Puis votre prochaine étape, c'est d'aller voir la police puis de voir les autorités.
Il faut absolument qu'il y ait du monde qui nous aide, que ce soit il y a un avocat, n'importe qui me donne un coup de main. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça prend absolument du monde qui nous donne un coup de main pour dire, comment est-ce qu'on fait faire les choses correctement pour arrêter cette monsieur-là? Traduire en justice sur des choses qu'il a faites, pas sur des allégations.
Non.
Autant financier qu'avec ses enfants, qu'avec tous les membres d'église qui ont passé là, puis les vies qu'il a scrappées. Il a scrappé tellement de vies, ce monsieur-là. On pourrait parler de ça pendant des semaines. C'est
Monsieur Gamelin, merci beaucoup d'être venu. Gamelin, Paul-Émile Monnette,
merci
beaucoup
à vous.
Également. Juste vous dire que la DPJ dit avoir un dossier d'ouvert, en tout cas. Ça, c'est un.
Oui.
Puis la suite des choses vous appartient. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci tout le monde.
Dans un instant, pourquoi tout nous tombe sur les nerfs?